Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement, de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 31 décembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. L'Iran a lancé avec succès trois appareils de recherche spatiale par Simorgh. Pour parler de Vienne, le principal négociateur iranien souligne qu'il y avait de bons progrès ces derniers jours dans le domaine de la levée des sanctions injustement imposées contre l'Iran. Pékin menace les États-Unis d'un prix insupportable. L'armée malienne dit avoir tué près de 60 terroristes lors d'opérations militaires. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Pour la première fois, la porte satellite de Simorgh a lancé ce jeudi simultanément trois appareils de recherche à une altitude de 470 km et à une vitesse de 7350 mètres par seconde, annonce le porte-parole spatial du ministère iranien de la Défense, Seyed Ahmad Hosseini. Dans cette mission de recherche spatiale, pour la première fois, trois appareils de recherche ont été lancés simultanément à une altitude de 470 km et à une vitesse de 350 mètres par seconde, a-t-il déclaré. Il a précisé que les composants du centre spatial fonctionnaient parfaitement et que les étapes du lancement de la fusée se sont déroulées conformément au plan. Enfin, les objectifs de recherche ont été atteints, a-t-il souligné encore. Il a en fait déclaré que le lancement d'une suite à plusieurs réalisations du programme spatial civil de la République islamique d'Iran. Le principal négociateur iranien, Ali Boghrikani, a déclaré que de bons progrès avaient été réalisés concernant la levée des sanctions réclamées par l'Iran à la suite des récents pourparlers à Vienne. À la veille des vacances du Nouvel An, ce jeudi 30 décembre, Ali Boghrikani, s'exprimant au micro des journalistes basés à Vienne, a déclaré au cours des derniers jours du 8e cycle de pourparlers, les discussions ont porté principalement sur la levée des sanctions. Il a ajouté, les dialogues et les interactions entre la partie iranienne et le camp d'en face se sont poursuivis dans plusieurs domaines. Plusieurs sessions ont eu lieu sur la question de la vérification de la levée des sanctions avec le coordinateur de la commission mixte avec la partie européenne. Il a poursuivi dans le domaine de la levée des sanctions. Des correspondances ont été faites entre les deux parties et des progrès relativement bons ont été réalisés au cours de ces premiers jours du 8e tour. Il a exprimé l'espoir de voir, après quelques jours de répit dû aux vacances de fin d'année, un travail plus sérieux sur la question de la levée des sanctions par différentes parties. Pékin menace les États-Unis d'un prix insupportable. Les États-Unis risquent de devoir payer un prix insupportable pour leur soutien à Taïwan, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, avertissant Taïwan qu'elle faisait face à une situation extrêmement dangereuse. Dans un entretien à la télévision nationale et à l'agence de Chine Nouvelle, Wang Yi a accusé Washington d'encourager l'indépendance de Taïwan, l'île que Pékin considère comme l'une de ses provinces, bien qu'elle soit gouvernée séparément depuis 1949. Cela va non seulement placer Taïwan dans une situation extrêmement dangereuse, mais aussi mettre les États-Unis devant un prix insupportable, a-t-il prévenu. Pékin n'a jamais écarté l'hypothèse d'un recours à la force pour établir sa souveraineté sur Taïwan et a multiplié ces derniers mois les incursions aériennes dans la zone d'identification de défense de l'île. Washington a de son côté poursuivi son soutien à l'armement de Taïwan et a envoyé de hauts responsables sur place, aux grandes dames d'ailleurs de Pékin, qui interdit tout contact officiel entre l'île et des gouvernements avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. Le président de l'autorité autonome palestinienne, Mahmoud Abbas, lors d'un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, a déclaré que la politique israélienne risque de mener à une véritable explosion en Cisjordanie, théâtre de récurrents de heurts. Lors de cet entretien téléphonique, il a souligné l'importance de mettre fin aux pratiques unilatérales d'Israël quant aux colonies, à la confiscation des terres, à l'expulsion de Palestiniens à l'est d'Al-Quds occupée et au terrorisme des colons, car ces mesures israéliennes vont mener à une explosion de la situation, a-t-il déclaré, cité par l'agence officielle palestinienne Wafa. L'armée malienne dit avoir tué près de 60 terroristes lors d'opérations militaires. L'armée malienne a annoncé que près d'une soixantaine de terroristes avaient été tués lors d'opérations militaires menées cette semaine dans le centre et le nord-ouest du pays. L'aviation, lors d'une opération de poursuite de groupes terroristes, a mené des frappes dans la forêt de Soué, dans le centre du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso, a-t-elle précisé sur son site officiel. Ces frappes ont tué 27 terroristes et fait plusieurs blessés graves qui ont été transportés à Sankoro et Péguaré. Selon elle, plusieurs chefs terroristes sont morts à cette occasion. Par ailleurs, l'armée dit avoir tué 31 terroristes dans une attaque dans la région de Guiré, située dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec la Mauritanie. Elle a reconnu avoir perdu 8 soldats et 2 véhicules, recensant par ailleurs 7 blessés dans ses rangs. Les embuscades et les attaques à l'aide de mines artisanales sont récurrentes dans le centre du Mali et la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La Mauritanie pourrait faciliter la réintégration d'Alger dans la guerre antiterroriste au Sahel, a indiqué mercredi à Xinhua Amedou Mohamed Mustafa Nada, analyste politique et journaliste à l'agence de presse privée mauritanienne Al Akhbar. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a bouclé une visite d'État de 3 jours en Algérie, selon cette analyse politique. Au-delà des accords signés, les pays du DG5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad pourraient avoir besoin de l'armée algérienne pour combler le vide après le départ des troupes françaises au Mali. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. L'Union africaine appelle à la grande retenue, à la plus grande retenue en Somalie. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé de son inquiétude face aux tensions politiques actuelles en Somalie. Le président du bloc panafricain suit avec une profonde inquiétude les graves tensions politiques actuelles en Somalie, selon un communiqué de l'Union africaine. M. Mahamat a appelé à la plus grande retenue tout en insistant sur la poursuite des contacts et du dialogue entre le président et le premier ministre du pays afin de trouver une solution politique à la situation actuelle. L'Union africaine s'engage à nouveau à renforcer son soutien en faveur d'une paix durable et d'un climat politique stable en Somalie, a-t-il dit. Le président de la Confédération africaine d'athlétisme s'oppose à la politisation du sport. Ne laissez pas la politique entraver le sport, a déclaré le président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba Malboum. Le sport est d'abord politique. Le sport est un moyen de dépasser l'égoïsme pour que la jeunesse du monde se retrouve sans distinction de race, de culture ou de langue. Dans un monde où nous voulons passer le message de la paix, les aspects politiques devraient pouvoir laisser le sport occuper son espace sans ingérence particulière, a-t-il déclaré. Il a indiqué que les athlètes qui sont passionnés par le sport doivent l'embrasser pleinement et participer au jeu. L'essentiel est que les athlètes soient là. Le fait que les dirigeants ne veulent pas de cela n'empêche pas aux athlètes de faire leur compétition, a martelé l'ancien responsable militaire qui a également dirigé le Conseil international du sport militaire de 2010 à 2014, faisant référence à l'annonce de certains pays de ne pas envoyer de représentation diplomatique officielle aux Jeux olympiques d'hiver et paralympiques de 2022 à Pékin. Il a déclaré d'espérer que les 10 événements sportifs atteindraient leurs objectifs et a félicité la Chine pour les efforts déployés pour accueillir les Jeux. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La Mauritanie pourrait réarmer l'Algérie dans la guerre anti-terroriste, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Nouakchott pourrait faciliter la réintégration d'Alger dans la guerre antiterroriste au Sahel, a indiqué Ahmedou Mohamed Moustafanada, analyste politique et journaliste à l'agence de presse privée mauritanienne d'Al-Akhbar. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a bouclé une visite d'État de 3 jours en Algérie en de supervisant avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune la signature de plusieurs accords bilatéraux relatifs à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique, à la formation professionnelle, à la santé et à la micro-entreprise. Selon M. Nada, au-delà des accords signés, les pays du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad pourraient avoir besoin de l'armée algérienne pour combler le vide après le départ de troupes françaises au Sahel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le 10 juin dernier la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Et il a proposé en échange un changement de modèle visant à mettre en place une alliance internationale concentrée sur la lutte contre le terrorisme au Sahel. M. Nada a rappelé dans ce contexte que l'Algérie a modifié sa constitution en 2021 pour autoriser désormais l'intervention de son armée en dehors de ses frontières et par conséquent au Sahel. Le déplacement du président mauritanien en Algérie serait aussi motivé, a expliqué l'analyse politique, par une tentative de Nouakchott de faire baisser la tension entre Rabat et Alger autour du Sahara occidental, laquelle risque d'embraser le Maghreb. Ma visite a permis de conforter notre détermination commune à redoubler d'efforts pour diversifier la coopération entre nos deux pays dans l'intérêt de nos peuples frères du Grand Maghreb arabe et de nos oummas arabes et islamiques, a déclaré le président mauritanien à son deuxième jour de séjour algérien. Le 24 août dernier, rappelons-le, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc et a interdit par la suite son espace aérien aux avions de ce pays. La frontière des deux pays était déjà fermée depuis 1994.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 18 décembre 2021. La République islamique d'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique sont parvenus mercredi à un accord. En vertu de cet accord, l'Iran a accepté, en effet, en guise de geste de bonne volonté, de permettre le remplacement des caméras en effet, dans un atelier de fabrication de composants de centrifugeuses à Karaj, près de Téhéran. La République islamique d'Iran a souligné que les caméras endommagées, en effet, lors d'une opération de sabotage en juin, seraient remplacées uniquement après des examens techniques, sécuritaires et judiciaires. Vendredi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a déclaré que les données d'une caméra, de cette caméra endommagée, étaient manquantes. Une source proche de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a rejeté en effet la demande de l'AIEA, soulignant que justement cette caméra avait été détruite, complètement détruite, lors de l'opération de sabotage imputée à l'entité israélienne. Par ailleurs, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique Mohamed Islami a noté que l'agence va expliquer le fonctionnement aux responsables, le fonctionnement en effet de la caméra aux responsables de la sécurité et de la justice iranien avant de réinstaller en effet ces caméras. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cet accord entre l'Iran et l'AIEA, l'approche de l'agence viennoise envers la République islamique d'Iran et l'impact de cet accord sur le processus des négociations de Vienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Qu'y a-t-il de nouveau dans le dossier des pourparlers à Vienne? L'AIEA et l'Iran parviennent à un accord sur le remplacement des caméras de surveillance de l'installation de Karaj. Suivant les mêmes modalités qu'avant? Eh bien non. L'AIEA, dont les rapports troublent avec les actes de sabotage d'Israël, qui ont toujours inquiété, l'Iran est maintenant prise, cette fois-ci avec les pincettes. En effet, l'Iran vient de permettre l'installation des caméras de l'agence dans son complexe de Karaj à Tessa, mais une fois que ces caméras auront été soumises à l'examen minutieux de ses experts. Puis, les images qui en sortiraient, ce n'est plus seulement l'AIEA qui y aurait accès, mais l'Iran également. C'est-à-dire que ces images seront mises sous scellé et l'AIEA ne pourra les avoir que simultanément avec l'Iran. L'Organisation de l'énergie atomique d'Iran a fait la lumière sur un accord avec l'Agence nucléaire des Nations Unies pour remplacer les caméras d'une installation nucléaire qui ont été endommagées par un acte de sabotage en juin, expliquant que l'équipement ne sera réinstallé qu'après examen minutieux. Behrouz Kamalvandi a fait ses remarques ce jeudi, un jour après que des informations aient annoncé que l'Iran avait pris une mesure volontaire pour permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'accéder à un certain nombre de caméras qui avaient été endommagées lors d'une opération terroriste au complexe Tessa de Karaj, un atelier de fabrication de composantes centrifugeuses près de Téhéran. À la suite d'échanges en vue entre l'AEOI et l'AIEA, notamment sur la base des récents pourparlers entre les chefs des agences Mohamed Islami et Raphaël Grossi, il a été décidé que l'AIEA aura la coopération nécessaire avec l'Iran dans les domaines techniques, sécuritaires et précisément dans les inspections judiciaires des caméras de l'agence au complexe Tessa Karaj. Cette mesure vise à apaiser les craintes que les saboteurs ne profitent des caméras, a-t-il déclaré. L'Iran est le groupe de pays P4+1 qui comprend le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine et l'Allemagne ont tenu plusieurs séries de pourparlers dans la capitale autrichienne. Les pourparlers visent à lever les sanctions que les États-Unis ont réimposées contre Téhéran en 2018 après avoir quitté un accord nucléaire historique entre l'Iran et les pays susmentionnés. Et c'est à cette seule condition que l'Iran est prêt à revenir à ses engagements nucléaires alors même qu'il est désormais capable d'enrichir l'uranium à 60%.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec M. Xavier Dupré, économiste et spécialiste des questions internationales, et depuis Paris avec Maître Elie Atem, juriste international et analyste politique. Maître Atem, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Maître Atem, comme vous savez, il y a deux jours, trois jours, un accord a été obtenu entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour remplacer les caméras d'une installation nucléaire qui ont été détruites lors d'un acte de sabotage en juin dernier. Quel premier regard portez-vous sur cet accord? Cet accord qui, bien sûr, s'agit là d'une mesure volontaire et montre en effet la bonne foi de la République islamique d'Iran dans la coopération avec l'agence viennoise. Quel premier regard portez-vous, Maître Atem, sur cet accord?
Oui, ce qu'il faut voir, il faut rappeler que la bonne volonté, plus que la bonne foi, je dirais donc, de l'Iran, n'a jamais été remise en doute depuis les premières négociations sur le nucléaire iranien en 2015, et puis même aujourd'hui. Il faut rappeler une chose très importante, c'est que l'Iran a toujours respecté ses engagements internationaux, l'Iran a toujours respecté les termes de cet accord qui est intervenu, et ce qui est en fait le pacte Sund Servanda, mais ce sont surtout les Américains qui n'ont pas respecté les termes de cet accord. Et ce sont les États-Unis qui se sont retirés et non pas l'Iran. Alors, quelles sont les raisons qui sont derrière? Ce ne sont pas du tout des raisons juridiques, mais ce sont des raisons politiques. Parce que les États-Unis et leurs alliés, certains pays occidentaux, mais surtout également l'entité sioniste, voient d'un très mauvais œil l'avancée technologique, culturelle, économique de l'Iran, et ils font tout pour l'arrêter, pour affaiblir ce pays et pour pouvoir maîtriser l'Iran comme l'ensemble des autres pays de la région, mais également donc de la planète. C'est la raison pour laquelle ces sanctions sont édictées contre l'Iran, en sachant très bien que l'Iran n'a jamais commis un acte internationalement illicite qui justifie la prise de ces sanctions. Je vous donne un exemple. La Turquie a fait des actes qui sont complètement répréhensibles, que ce soit son intervention en Libye, que ce soit la provocation donc, de la France, que ce soit ses actes dans l'est de la Méditerranée. Eh bien, les États-Unis n'ont pas brandi une seule menace de sanctions contre la Turquie. Pour quelle raison? La Turquie fait partie de l'OTAN, la Turquie est également un allié d'Israël, même si cette alliance ne paraît pas d'une manière ostensible, mais elle est réelle, elle existe, et donc c'est la raison pour laquelle aucune sanction n'a été prise. Un autre exemple, Daesh et l'émergence de Daesh, on sait très bien que qu'est-ce qui a lutté contre ces organisations terroristes? C'est bien l'Iran et la Russie, et c'est la raison pour laquelle l'Iran et la Russie, ont eu des sanctions. Donc l'accès même, je dirais, de l'Iran au nucléaire et puis à la technologie nucléaire, par conséquent, ne porte pas atteinte et préjudice à la paix et la sécurité internationale qui sont les objectifs de l'organisation mondiale. Mais nous le savons aujourd'hui, et puis depuis d'ailleurs Boutros Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui a parlé en disant à propos de l'Organisation mondiale des Nations Unies, que c'est une organisation qui est malheureusement de plus en plus sous la pression, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, et d'autant que son siège, comme vous le savez, est à New York, et donc elle a perdu de son objectivité. Pour revenir et terminer et conclure sur votre question, tout démontre la bonne volonté de l'Iran d'aboutir à un compromis, parce que ce n'est même pas une solution, parce qu'il n'y a pas de problème, mais c'est un compromis, et pour montrer encore une fois la volonté de l'Iran qui a été attaqué, il faut le dire, par Israël et par les États-Unis sur son propre territoire, et malgré tout, elle n'a pas riposté, parce que l'Iran respecte le droit international et les principes du droit international qui doivent régir la société internationale, et non pas cet opportunisme politique et ce diktat avec lequel les États-Unis veulent imposer leur volonté et leurs intérêts politiques.
Merci infiniment pour ces précisions, Maître Atem, restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Bruxelles pour rejoindre M. Xavier Dupré, économiste et analyste politique. M. Dupré, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Maître Atem l'a rappelé, la République islamique d'Iran a toujours respecté ses engagements, que ce soit en effet dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 ou encore dans le cadre de sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce qui a été d'ailleurs confirmé dans des multiples rapports de l'agence viennoise. Là, donc, il va de soi. Mais en ce qui concerne alors l'approche de l'agence, est-ce que l'agence a toujours pu et su, en effet, assumer ses responsabilités et sa mission indépendamment, M. Dupré?
Clairement, l'Agence internationale de l'énergie atomique est une agence sous influence. Et depuis bien des années, on constate que cette agence se situe de plus en plus dans le giron direct des intérêts états-uniens et en ce qui concerne la région du prochain Moyen-Orient, des intérêts et des visées de l'entité israélienne. Ça, c'est très, très clair. Je crois que là-dessus, il n'y a pas véritablement de débat. Vous savez, je n'ai jamais vu un seul rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui, même à titre prospectif, se serait interrogé sur le fait que l'entité israélienne possède aujourd'hui l'arme nucléaire. Jamais. Ça n'existe pas. Donc, on est vraiment très, très loin de standards d'impartialité tels qu'on pourrait l'attendre d'une grande agence internationale. Cela dit, il faut quand même reconnaître quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, plus personne n'oserait, à l'intérieur de ces pays occidentaux, qui sont tous plus ou moins mis, un peu comme l'Agence internationale de l'énergie atomique, sous influence américaine, on est tous sous orbite américaine, plus aucun de ces pays ne doute aujourd'hui d'une grande réalité et qui sera de plus en plus prégnante dans les années à venir, c'est que l'Iran est une puissance régionale absolument incontournable au prochain Moyen-Orient. Et on voit clairement aujourd'hui, et c'est toute l'angoisse des Européens, c'est que clairement, si l'Iran a les moyens d'enrichir l'uranium à un niveau de 60%, c'est une question de semaines, de mois, grand maximum, un trimestre, pour arriver à un niveau d'enrichissement qui serait équivalent à 90-90% des périmètres à thème. Et donc, clairement, il y a aujourd'hui, de par la capacité de l'Iran à s'affirmer comme un grand acteur de la filière nucléaire civile et d'un ensemble de filières technologiques, finalement, qui en font un acteur de pointe, il y a une nécessité à traiter davantage et de plus en plus l'Iran d'égal à égal. Et ça, ça se ressent déjà un peu aujourd'hui. Je veux dire, l'Agence internationale de l'énergie atomique est de plus en plus amenée à considérer l'Iran comme un partenaire incontournable. C'était déjà le cas entre 2015 et 2018, puisque je me souviens très très bien des rapports que l'on trouvait sur le site de l'agence et qui démontraient que le contrat de 2015, les accords de 2015, étaient parfaitement respectés par l'Iran. Et donc aujourd'hui, toute la dynamique de négociation va tourner autour de, finalement, l'échec de la diplomatie Trump, qui a voulu imposer une politique de pression maximale sur l'Iran. L'Iran était un partenaire bien plus puissant que ce que s'imaginait la diplomatie un peu amateuriste tout de même, la politique étrangère un peu amateuriste de Donald Trump. Et donc aujourd'hui, il faut revenir, sans trop perdre la face du côté des Occidentaux, à la philosophie même du plan des accords de 2015. Et pour cela, l'Iran sera de plus en plus reconnu comme un partenaire à égalité par les Occidentaux, parce que c'est une grande puissance émergente. Et sa maîtrise de la filière nucléaire en atteste pleinement. Autrement dit, nous sommes arrivés aujourd'hui à un point qui montre non seulement la bonne volonté, la bonne foi et la crédibilité de l'Iran comme partenaire diplomatique, mais on voit aussi émerger le résultat d'une politique étrangère qui a été cohérente et ferme. Ferme parce que jamais l'Iran n'a cédé sur des principes de souveraineté qui, clairement, la diplomatie américaine tente de bafouer chaque fois qu'il est question d'un autre pays que les États-Unis. Et c'était cohérent parce que l'Iran avait les moyens d'affirmer cette souveraineté. Et aujourd'hui, nous sommes au point de départ d'une négociation qui sera compliquée parce qu'il y aura toujours les perturbations en provenance directe de l'entité israélienne, d'une partie de l'aile droite du Parti républicain aux États-Unis qui ne désarme pas, mais en même temps, la réalité finit par s'imposer à tous. L'Iran est une grande puissance régionale, c'est un grand pays émergent, et il est impossible de le soumettre à une politique de sanctions, puisqu'en réalité, il suffit que ce grand pays émergent, de par son caractère central, se tourne vers l'Asie et la Russie pour retrouver des marges de manœuvre. dans ces conditions, je ne vois pas d'autre solution de la part des Occidentaux et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il n'y a pas d'autre solution pour eux. Ils vont devoir de plus en plus traiter l'Iran d'égal à égal. Et donc là, aujourd'hui, on peut quand même dire que ce point montre non seulement la bonne volonté de l'Iran, mais montre sa capacité à tenir une ligne diplomatique ferme et cohérente dans ce dossier et à obtenir des résultats.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, Monsieur Dupré. Maître Atem, alors revenons à ces négociations nucléaires à Vienne. Alors, avant de revenir justement sur ces négociations, la République islamique d'Iran a noté que l'AIEA ne pourra visionner le contenu des caméras de surveillance qu'une fois les sanctions occidentales, en l'occurrence américaines, levées. Alors, quel sera l'impact de cet accord entre l'Iran et l'AIEA sur le processus des négociations? En d'autres termes, est-ce qu'il faudrait s'attendre prochainement à une levée des sanctions occidentales contre la République islamique d'Iran?
Vous savez, ce sont des négociations qui sont entreprises. Et les négociations sont fondées, comme vous le savez, sur un rapport de force et sur donc un certain marchandage entre les parties. Donc, d'un côté, les Américains et puis les Occidentaux, mais en fait, ce sont les Américains, parce qu'on sait très bien que les Occidentaux sont sous l'emprise des États-Unis dans ces négociations, utilisent l'arme des sanctions comme un élément dissuasif pour être en position donc de force et pour faire revenir l'Iran en arrière. L'Iran, donc, de son côté, utilise également d'autres moyens, en particulier aujourd'hui, on le voit, sa dissuasion également militaire, et ce qui fait peur d'ailleurs à Israël quand on voit l'avancée de ses drones, l'avancée de son arsenal militaire, et puis sa capacité de mater non pas simplement donc les États-Unis, mais également éventuellement Israël, au cas où elle sera en position défensive, parce qu'il faut rappeler que l'Iran n'a jamais été en position offensive. Autrement dit, l'Iran n'a jamais mené une guerre offensive contre les autres. Elle peut aider dans certains pays, dans certaines circonstances, des gens qui sont attaqués, ce qu'on appelle les déshérités, ou bien les défavorisés, ou bien les victimes donc d'attaques par esprit de solidarité. Mais comme l'a dit tout à l'heure M. Dupré, il a tout à fait raison, c'est qu'il y a une idée chez les Iraniens, comme chez les Russes d'ailleurs, et les Chinois, c'est-à-dire, je dirais, l'axe du bien aujourd'hui dans le monde, et ce nouveau monde libre aujourd'hui, qui est la préservation de la souveraineté ou des souverainetés nationales contre un monde qui est mondialiste, arbitraire, qui veut détruire en fait ces différentes entités et ces différentes souverainetés nationales. Et c'est la raison pour laquelle l'Iran respecte en fait ces principes. Et donc, d'un côté, l'Iran veut absolument préserver ses principes, préserver sa souveraineté et en même temps dissuader les États-Unis et leurs alliés qu'elle est aujourd'hui en position de force dans ces négociations et obliger les pays occidentaux, en particulier, encore une fois, les États-Unis, de lever leurs sanctions. Je pense, en toute objectivité, en voyant l'évolution donc, de ces négociations, qu'une partie de ces sanctions doivent être levées. Peut-être pas la totalité de ces 1500, il faut rappeler, il y a 1500 sanctions qui ont été édictées entre 2018 et 2021 contre l'Iran. Donc, même s'il y a la moitié donc, de ces sanctions sont levées, c'est déjà un pas en avant et une réussite dans cette négociation entre l'Iran et ses adversaires.
Merci infiniment. Une toute dernière question à M. Dupré. M. Dupré, il nous reste 3 minutes. Et pour vous, quel sera l'impact de cet accord entre l'Iran et l'AIEA et cette attente légitime de la République islamique d'Iran, à savoir la levée des sanctions, donc dans les négociations entre l'Iran et les parties occidentales à Vienne? Est-ce que là, les pays occidentaux, justement, comme vous avez dit tout à l'heure, se rendront à l'évidence pour traiter avec cette puissance régionale incontournable.
Mais je crois qu'en 3 minutes, hein, donc il faudrait être très rapide, je crois qu'il y aura toujours des perturbations en provenance de l'entité israélienne, c'est très clair. Je crois aussi, malgré tout, que les Occidentaux aujourd'hui, et c'est très net quand on entend les Européens, le parti un peu dominé des Occidentaux, ils prennent complètement en compte le fait que l'Iran est en capacité aujourd'hui de devenir un acteur nucléaire majeur. Donc cet accord va contribuer à un déblocage de la situation. En même temps, ces négociations étaient quand même assez mal parties. Je pense quand même que là maintenant, c'est un mouvement d'accélération qui va commencer à s'imprimer sur le rythme des négociations. La question des sanctions devra être posée à un moment donné. Et c'est vrai qu'il y en a énormément, mais si on pouvait déjà obtenir d'un point de vue économique, je suis économiste, le fait que les banques iraniennes soient reconnectées au système SWIFT, ça permettrait et alors de débloquer aussi les paiements en vue de l'échange sur le pétrole et le gaz iranien dont nous avons beaucoup besoin en Europe. Donc il y a toute cette série de facteurs qui vont commencer tout doucement à faire infléchir les pays occidentaux dans le sens de ce que veut l'Iran. Ça, c'est une dynamique qui est assez positive. Donc, ce d'autant, parce que je reviendrai toujours sur cette question, il y a peu de temps, ce sommet virtuel sur la démocratie qui avait été organisé par Joe Biden, et je crois qu'aujourd'hui, une partie du corps diplomatique américain, états-unien, pour être plus précis, prend complètement en compte, se rend bien compte que l'unilatéralisme des années 90 est clairement une époque révolue, et que les États-Unis ne pourront plus jamais organiser autour d'eux un bloc aligné à 100%, enfin, ils ne pourront plus être le moteur principal et unique de la mondialisation. Et donc, cette mondialisation qui a été en réalité l'américanisation du monde se termine, est en passe de se terminer, et là, ça annonce des développements potentiellement positifs pour cette négociation qui prendra encore du temps malgré tout. Je répète, le pouvoir de nuisance de l'entité israélienne reste intact et restera Merci. Là encore pendant longtemps. C'est moi qui vous remercie.
Xavier Dupré, économiste et spécialiste des questions internationales depuis Bruxelles. Maître Elie Hatem, juriste international, analyste politique depuis Paris. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à notre émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et un grand bonjour à Monsieur Dupré.
Je vous réciproque les salutations, maître Atem.
Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
L'année où les États-Unis atteignent le point de non-retour de leur phase d'effondrement. Le sursis de 30 ans que les États-Unis ont obtenu grâce à l'effondrement de l'URSS a maintenant expiré et tous les efforts d'expansion impériale déployés depuis lors, Afghanistan, Irak, Syrie, Libye et la ceinture explosive qu'est l'Europe de l'Est ont été un échec total. Pendant ce temps, une Russie renaissante, soutenue par une grande partie du reste de l'Eurasie, retourne la situation et donne des ordres aux États-Unis en des termes parfaitement peu diplomatiques. Barbara Ritter, de l'Université de Californie et San Diego, est récemment parue sur CNN pour expliquer que les États-Unis se trouvent désormais dans une zone à haut risque de violence politique et de guerre civile. Cela signifie que les États-Unis sont finalement prêts à l'effondrement. Barbara étudie l'instabilité politique depuis 30 ans, plus récemment dans le cadre d'un groupe de travail de la CIA qui lui a donné accès à quelques données politiquement sensibles. Son évaluation n'est pas fondée sur un sens impressionniste de l'esprit animal, mais sur des mesures spécifiques affinées par leur application à des pays politiquement instables dans le monde entier. Et selon elle, les États-Unis sont désormais exposés à un risque élevé de guerre civile, d'instabilité politique et de violence politique. Pour reprendre une expression de Farid Zakaria, ils sont devenus une démocratie illibérale. Un autre terme qu'elle utilise est anocratie, qui peut être définie comme une forme de gouvernement qui est en partie une démocratie et en partie une dictature, ou comme un régime qui mélange des caractéristiques démocratiques et autocratiques. Nous sommes plus proches de la guerre civile qu'aucun d'entre nous n'aimerait le croire, déclare Barbara en termes très clairs. Dmitri Orlov, l'auteur de l'article, a divisé l'effondrement en 5 étapes ou phases distinctes qui peuvent se chevaucher totalement ou partiellement, se produire de manière désynchronisée ou même prendre de l'avance sur les autres en fonction des circonstances locales. Ces phases sont les suivantes: financières, commerciales, politiques, sociales et culturelles. Cette taxonomie offre un bon moyen de donner un sens à tout cet énorme gâchis et de mesurer les progrès accomplis. Dans le cas des États-Unis, l'effondrement financier se développe gentiment. Personne ne sait quelle paille particulière de la dette publique fera déborder le vase. Mais nous pouvons être sûrs que ce moment viendra. Nous savons également ce qui se passera ensuite. Perte d'accès aux produits et aux ressources importées, arrêt de l'économie et dissolution politique. L'effondrement commercial est également en bonne voie. La tendance a été de remplacer la diversité du commerce local par un ou quelques magasins à grande surface, en fin de compte, généralement un Walmart, qui aspire à toute la richesse de la communauté locale et l'expédie en Asie de l'Est, après quoi le Walmart ferme, laissant une coquille vide et un parking vide. Ce qui reste, pour ceux qui ont encore un peu d'argent, c'est le commerce en ligne. Mais il s'avère alors que beaucoup d'articles sont en rupture de stock ou simplement indisponibles. L'effondrement social et culturel dans le contexte des États-Unis est un cas particulier. La plupart des activités sociales ont été absorbées par les médias sociaux, médiatisées c'est-à-dire par des sociétés privées. Ces sociétés de médias sociaux tirent profit de la vente de données sur leurs utilisateurs et une fois que ces données deviennent sans valeur, parce que les utilisateurs sont fauchés, la société artificiellement constituée se dissout. De même, la culture a été réduite à un ensemble de services culturels et commerciaux, et une fois que le commerce a disparu, la culture aussi. Le résultat final est une population d'inadaptés mentaux qui sont coincés parmi des étrangers et qui ne peuvent pas communiquer correctement ou faire cause commune avec qui que ce soit, mais qui sont lourdement armés, avec beaucoup de munitions, principalement de fabrication russe, malgré les sanctions commerciales. Et maintenant, l'effondrement politique est en train de les rattraper. Selon Barbara, l'un des signes révélateurs d'une instabilité politique imminente est la montée de l'esprit d'entreprise éthique. À l'approche de 2022, les États-Unis sont prêts à un effondrement total. Les marchés financiers sont truqués à la perfection et prêts à exploser. Le commerce est entré en mode de défaillance logistique. La société a été réduite à un ensemble de silos de médias sociaux. La culture est un produit commercial éphémère. Et maintenant, le domaine politique est prêt à adopter le principe d'une balle, un vote. Il n'est donc pas surprenant que les Russes, pleinement soutenus par les Chinois, dressent leur liste d'exigences non négociables et la vérifient deux fois. Ramenez vos armes nucléaires sur votre propre territoire, cessez de naviguer ou de voler n'importe où près de la Russie, retirez vos armes et vos troupes de la ceinture explosive qu'est l'Europe de l'Est et assurez-vous qu'il y a quelqu'un près du téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au cas où nous aurions d'autres instructions. Les Russes regardent probablement le même ensemble de données de la CIA que Barbara a étudié et voient la même chose. L'effondrement des États-Unis est enfin arrivé. Ce n'est pas un exercice, d'où l'urgence de faire signer les papiers avant le début de la fusillade. Ils veulent vraiment régler toutes les questions de sécurité avant de fêter la nouvelle année et ensuite profiter de leurs vacances d'hiver dans la paix et la tranquillité.